Vous en profitez pour faire de la publicité. Donc vous pouvez trouver en effet le prospectus d'adhésion à la Société française d'histoire des sciences et des techniques. Nous organisons des colloques et nous éditons aussi une collection avec des monographies, entre autres, et des actes de colloque qui s'appelle Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, dont voici un des derniers numéros. Avant, ils étaient édités par l'ENS, en coédition avec l'ENS. Maintenant, c'est édité avec Vibert. Et le dernier ouvrage est sur Paul Langevin. Voilà, j'espère que j'ai tout dit sur les CFHST. De toute façon, on reste à vos dispositions pour tout renseignement. Le dernier colloque a eu lieu à Poitiers. Il y a eu 300 personnes venues de partout. Donc je vous invite bien entendu en tant qu'enseignant à venir assister au colloque. Le prochain colloque est en septembre et nous avons une session, si vous regardez, mais je vous mettrai l'adresse du site www.cfhst.org. On a une session d'histoire des sciences de l'enseignement qui est faite par un groupe qui émane de l'UFM et qui s'appelle le groupe Reforest, dont Alain Bernard en fait partie, Renaud Denfer, etc. Renaud est déjà venu chez nous. Donc je pense que c'est intéressant pour les enseignants de venir aussi assister à ces colloques qui ne sont pas... Qui sont ouverts à tous. Voilà, donc je suis aussi... c'est encore un ami, c'est comme ça. Je n'y suis pour rien. Donc merci beaucoup, Bernard, d'être là chez nous. Nous sommes très émus de t'accueillir ici. Et voilà, donc Bernard Joly est professeur de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université de Lille 3, membre de l'UMR Savoir, Texte, Langage, CNRS, Université de Lille 3 et Lille 1. Tu es président de la SFHST. Donc, tes travaux de recherche portent principalement sur l'histoire de l'alchimie et de la chimie ancienne, et notamment les rapports entre la chimie, la philosophie et les autres formes du savoir. Donc, tu as publié en 92 chez Vrin la rationalité de la chimie à l'âge classique, ainsi que de nombreux articles dans des revues spécialisées. Je note que le prochain article va être dans la prochaine revue de la recherche, si je peux me permettre de faire cette publicité. Tu as notamment dirigé un numéro spécial de la revue d'histoire des sciences en 1996 sur théorie et pratique de la constitution des savoirs alchimiques, ainsi qu'un dossier sur la chimie et le mécanisme à l'âge classique qui paraîtra en mars 2008 dans la revue en ligne Méthodos, www.revue.org. Voilà, donc le titre de ton intervention aujourd'hui est « Quand l'alchimie était une science » et nous t'écoutons. Merci beaucoup Bernard Joly.
Merci beaucoup Anne, et si tu as de nombreux amis, c'est sans doute pas par hasard. Je vous ai fait distribuer une bibliographie qui est doublement désordonnée. D'une part, elle n'est pas classée par ordre alphabétique, mais à peu près dans l'ordre où les auteurs seront évoqués dans mon exposé. Et d'autre part, pour la même raison, je n'ai pas distingué ce que toute bibliographie doit distinguer, c'est-à-dire les sources ou la littérature primaire, les textes de l'époque dont on parle, et les commentaires, c'est-à-dire les ouvrages contemporains, ce qu'on appelle quelquefois littérature secondaire. Ici, tout est mêlé, donc à la fois des livres que vous pouvez facilement trouver en librairie et des ouvrages qu'on ne peut consulter que dans les bibliothèques de recherche ou à la BNF ou des choses de genre. Alors, lorsqu'on cherche des exemples de fausses sciences qui singeraient du côté de l'irrationnel ce que les vraies sciences déploie dans le champ de la rationalité, on cite souvent l'alchimie ou l'astrologie. Alors pour l'astrologie, il y a bientôt 30 ans que Gérard Simon a montré, sur le cas de Kepler, que la situation était infiniment plus complexe et qu'on ne pouvait pas véritablement opposer au XVIIe siècle, à l'époque de Galilée, astrologie et astronomie. En ce qui concerne l'alchimie, malgré des travaux assez nombreux ces dernières années, les choses sont moins claires. En effet, si on appelle science ce que sont aujourd'hui la physique, la chimie ou la biologie, il est clair que l'alchimie n'est pas une science. Les alchimistes voulaient transmuter les métaux vils en or. Ils affirmaient posséder la recette d'un élixir permettant de vivre plusieurs siècles. Ils prétendaient pouvoir faire renaître une plante de ses cendres, ce qu'on appelle la palingénésie, tout cela est impossible. Et l'alchimiste, qui croyait pouvoir acquérir sur lui-même et sur le monde une maîtrise sans faille, nous fait songer à un personnage comme le Faust que Goethe met en scène. Personnage romanesque qui incarne nos fantasmes, nos inquiétudes sur la science, modèle d'un savant fou et donc d'un savant qui est sorti des normes de la raison. On constate alors que tout semble séparer l'alchimie de la science. L'alchimie préfère les images quand la science s'appuie sur les concepts. Elle développe des rêveries quand la science construit des théories. Elle s'enferme dans le secret et l'occultation quand la science préfère la diffusion et l'enseignement. Comment donc une telle entreprise pourrait-elle relever du champ de la rationalité ? On pourrait donc penser que c'est l'opinion répandue, que vraiment l'alchimie n'a rien à voir avec les sciences. Ou alors, il s'agirait de prendre le mot « science » en un tout autre sens, d'adhérer à la croyance en une science occulte, d'expliquer qu'il faut se méfier de la science officielle, qui nous tromperait avec ses formules mathématiques, ses protocoles d'expérience. On supposerait que derrière les savoirs d'une raison calculatrice, il s'agirait de découvrir une véritable sagesse que possédaient les anciens et qui se transmet aux adeptes sous le voile de symboles et de formules codées. C'est la conception que développe l'ésotérisme contemporain, qui se nourrit en réalité de fantaisies et d'erreurs historiques mises en place par les fondateurs de l'ésotérisme, mouvement qui, je le rappelle, parce qu'il se donne toujours une antiquité extraordinaire, l'ésotérisme et l'occultisme sont des mouvements qui ont été créés au milieu du 19e siècle. Bon. Donc ce sont des mouvements de pensée qui récupèrent les textes alchimiques, qui les coupent de leurs racines historiques, qui les dénaturent, qui les amalgament à des traditions différentes comme la philosophie occulte ou la cabale. Donc je vais montrer qu'il est tout à fait abusif de faire de l'alchimie un ingrédient de l'occultisme, que ce sont deux doctrines tout à fait distinctes et opposées l'une à l'autre, et que ça a du sens que de ranger, mais alors sous quelles conditions et pour quelles raisons, c'est ce que je vais essayer de montrer, l'alchimie du côté de la rationalité et des savoirs scientifiques. Cependant, que faire de ces textes que l'on connaît ? Alors, il serait tentant, et je vais ici rapidement évoquer un certain nombre d'interprétations contemporaines des textes alchimiques que je conteste, parce que ce sont les plus répandus. Alors, il serait d'abord tentant de la ramener à un jeu sur des images spectaculaires. Alors, j'en montre quelques-unes, hein, parce que c'est la partie de l'alchimie que l'on trouve le plus facilement aujourd'hui en bibliothèque. Hein, voilà une illustration d'un traité d'alchimie du XVIIe siècle, avec un roi surmonté d'une colombe qui se fait cuire dans un laboratoire. Mais on voit dans le fond des appareils avec une représentation technique, pourrait-on dire, du laboratoire. Ou bien encore, c'est plus ancien. C'est une gravure du XVIe siècle, hein, où on voit donc la symbolisation des opérations chimiques par diverses positions sexuelles. Il y a une espèce de Kama Sutra de la chimie dans un certain nombre de... Ce qui donne un certain succès, même un succès certain, à ce genre de représentation. Alors, je n'insiste pas trop, parce que ça, c'est ce qu'on trouve partout. Et je voudrais montrer que l'alchimie, ce n'est pas cela, et que le rapport de ces images aux textes alchimiques du XVIe ou du XVIIe siècle correspond à peu près à ce que peut être aujourd'hui une publication de belles photographies en couleur de galaxies par rapport à ce que peut être l'astrophysique. On est dans le domaine de la vulgarisation. Alors, on pourrait aussi, à la suite de Jung, se livrer à une interprétation psychologique des textes et surtout de ces images alchimiques. Alors Jung, qui était un disciple dissident de Freud, considérait que l'alchimie est une forme privilégiée de l'expression d'archétypes inconscients que la pensée humaine reproduit à travers toutes les manifestations de la culture. En cherchant à explorer la matière, dont la véritable nature lui était inconnue, l'alchimiste, selon Jung, projetait inconsciemment son propre arrière-plan psychique inconnu dans l'obscurité de la matière. Pendant qu'il travaillait à ses expériences chimiques, écrit Jung, l'adepte vivait certaines expériences psychiques qui lui apparaissaient comme le déroulement propre au processus chimique. On doit faire au psychanalyste de Balois deux reproches essentiels. D'une part, il s'est livré à de véritables manipulations de textes et de gravures, abusivement nommées alchimiques, dans la mesure où les symboles qu'il contenait confortaient ses thèses. Mais surtout, il rejette la dimension réellement chimique de l'alchimie, allant jusqu'à affirmer, je cite, que les alchimistes avaient peu de choses ou rien à révéler dans le domaine de la chimie. Donc les positions de Jung relèvent de ce que, dans un traité sur l'interprétation, Umberto Eco appelle le délire interprétatif. On trouve des symboles alchimiques partout, dans les sculptures des cathédrales, dans les maisons de Jacques Coeur, dans les poèmes de Rimbaud, dans la peinture de Jérôme Bosch, ici sans doute, si on cherche bien. Tout devient alchimique, pourvu qu'il y ait mélange de confusion, de bizarrerie, d'obscurité. Alors on pourrait aussi, c'est une autre manière que je récuse, d'aborder aujourd'hui la littérature alchimique ancienne, on pourrait enfin inscrire l'alchimie dans l'histoire des religions, des mentalités, des mythologies, comme l'a fait par exemple Mircea Eliade, historien des religions d'origine roumaine, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, auteur d'ouvrages sur les mythes de l'éternel retour, sur la nostalgie des origines. Il voulait dégager l'alchimie de toute réduction à l'histoire de la chimie ancienne pour lui redonner ce qu'il appelait sa dimension spirituelle et mystique. Il espérait retrouver dans un monde oriental plus ou moins mythique les racines d'une civilisation aryenne. Les origines de notre culture seraient à rechercher du côté de l'Inde, de Babylone ou de l'Égypte, et non pas du côté de la tradition judéo-chrétienne. L'ambiguïté de ces thèses apparaît plus clairement si on se souvient que Mircea Eliade n'a jamais renié sa participation à des mouvements nazis dans sa jeunesse. Je le dis parce que beaucoup de gens l'ignorent, et ça donne une orientation singulière aux travaux de ce personnage. Pour soutenir sa thèse, Eliade, tout comme Jung, et ceux qui se rattachent aujourd'hui à cette interprétation mystique de l'alchimie, regroupent sous le terme d'alchimie toutes sortes de pratiques et de documents qui, quelquefois, n'ont rien à voir avec elle, livrant ainsi une version transversale, dénuée d'histoire, de convictions communes à diverses époques et à diverses civilisations. Des rapprochements qui sont abusifs. Certes, il a existé une alchimie chinoise qui a été étudiée par un érudit anglais qui s'appelle Joseph Needham. Il a sans doute existé une alchimie indienne. On les connaît mal. Il est à peu près certain qu'elles n'ont aucune influence sur ce qui s'est développé sous le nom d'alchimie dans le monde occidental. Donc, à l'opposé de toutes ces divagations tendancieuses qui envahissent les rayons des librairies ésotériques, il s'agit pour moi de rendre à l'alchimie sa véritable dimension chimique par le moyen d'une étude de ses textes et d'une analyse de ses théories et de ses pratiques remises dans leur contexte historique. On peut ainsi, me semble-t-il, échapper à la fois au réductionnisme d'un scientisme qui ne voudrait retenir de l'alchimie que quelques heureuses découvertes faites par hasard dans un océan d'absurdité, mais aussi résister aux récupérations ésotériques d'un occultisme qui oublie systématiquement la dimension historique des textes qu'il convoque. Mon hypothèse est donc la suivante. L'alchimie exprime une volonté de comprendre la structure de la matière, et en particulier celle des corps mixtes, ce qui a été pendant, et elle a été pendant de nombreux siècles, l'une des formes rationnelles de la réflexion scientifique et philosophique sur la matière. Plus précisément encore, on peut dire, je crois, que l'alchimie, c'est la chimie du Moyen-Âge, de la Renaissance et du XVIIe siècle. Alors, je le préciserai en disant que, en donnant trois caractéristiques de ce que j'appelle une pensée rationnelle. Elle est cohérente, elle est immanente, elle peut s'enseigner. Elle est cohérente. C'est-à-dire que, au fil des siècles, se constitue une théorie qui ne pourra être réfutée qu'à partir des travaux de Lavoisier, donc à la fin du XVIIIe siècle. Théorie qui s'exprime donc dans de longs traités, avec rigueur, où se forgent des concepts, comme je vais le montrer tout à l'heure, concepts qui sont mis à l'épreuve de travaux de laboratoire. C'est une pensée immanente. Je veux dire par là que le travail de l'alchimiste se fonde sur le seul usage de la raison, sans se référer à des puissances divines ou diaboliques ou à des forces occultes. Bien sûr, les alchimistes invoquent l'aide de Dieu parce qu'ils sont souvent chrétiens ou musulmans, et c'est comme ça qu'on fait habituellement, mais ça ne veut pas dire pour autant que leur savoir relève d'une révélation. L'alchimie ne relève pas de la magie, et on constate d'ailleurs qu'aucun alchimiste n'a jamais été condamné par l'Inquisition à l'époque où celle-ci sévissait dans les pays d'Europe. Enfin, les doctrines alchimiques peuvent se communiquer, l'alchimie peut s'enseigner. Alors c'est un critère important. Platon déjà définissait la science comme un savoir qui possède des maîtres et des élèves. Certes, l'alchimie aura du mal à être enseignée dans les universités. Elle est rejetée des universités au Moyen-Âge pour la bonne et simple raison qu'au Moyen-Âge ne peut être savoir universitaire qu'un savoir théorique. On enseigne la médecine dans les universités, mais c'est une médecine livresque. Les véritables praticiens, c'est-à-dire les apothicaires et les barbiers, les chirurgiens, n'entrent pas dans l'université, sont formés en dehors de l'université. Et donc la physique peut être enseignée à l'université parce que c'est une physique purement théorique, purement abstraite. Mais il n'y a pas de laboratoire dans des universités jusqu'au pratiquement au début du XVIIIe siècle. Et donc de ce fait, l'alchimie qui ne peut pas se passer de laboratoire n'entre pas dans les universités avant la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Alors, je poursuis en quatre moments. Oui, d'abord, un bref historique de la constitution de ce savoir. Puis, je montrerai ce que pouvait être la doctrine alchimique au XVIIe siècle à travers les travaux d'un auteur, un nommé Pierre-Jean Fabre, qui était médecin et alchimiste dans le sud de la France, à Calcène-Notary au XVIIe siècle. Dans un troisième temps, j'évoquerai rapidement la question de la diffusion, pour un peu casser le mythe d'une alchimie secrète, occulte, cachée, etc. Et enfin, dans un quatrième moment, je montrerai comment, au XVIIe siècle, la chimie ou l'alchimie était présente chez divers philosophes et savants. Alors, d'abord, quelques mots sur l'histoire de l'alchimie. Alors, histoire qu'il faut aborder avec prudence, parce que les documents font quelquefois défaut, mais surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'attribution et d'interprétation. Des personnages ont écrit sous des noms qui n'étaient pas les leurs. On attribue à un alchimiste arabe un texte qui, en fait, a été écrit en latin au XIIe siècle en Italie. On invente une alchimie de Nicolas Flamel au XIVe siècle, alors que les textes qu'on lui attribue sont des textes du XVIIe siècle. On suppose un moine allemand qui s'appelle Basile Valentin du XVe siècle, alors que là encore, les textes ont été écrits par celui qui se présentait comme leur éditeur à la fin du XVIe siècle, et ainsi de suite. Donc, si on ne prend pas garde, et si on ne se livre pas à un travail critique sur les textes, on peut effectuer beaucoup d'erreurs et de confusions. On peut, je crois, quand même repérer quelques moments. L'alchimie s'est développée dans le monde européen, et j'inclus dans l'Europe ce qui constitue aujourd'hui le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Ça s'est développé dans le monde gréco-alexandrin, c'est-à-dire dans les premiers siècles de notre ère, vers le IVe siècle après Jésus-Christ, en grec. On a conservé quelques textes écrits en grec. Ce sont des manuscrits du XIIe siècle, en fait, mais qui sont des copies de textes plus anciens, et qui ont été rassemblés à la fin du XIXe siècle par le célèbre chimiste Marcellin Berthelot, qui a édité les textes grecs, les a fait traduire. Ce sont de très mauvaises traductions, mais ce sont les seules qui existent actuellement et qui permettent de se faire une idée de ce qu'était cette première chimie, entre guillemets, qui s'appelle alchimie, mais qui relève de la chimie, et qui s'enracine à la fois dans des pratiques artisanales et dans des réflexions théoriques sur la matière. On passe à cette époque de ce qu'on pourrait appeler l'orifiction à l'orifaction. Je veux dire par là que des artisans habiles sont capables de fabriquer des alliages métalliques qui ressemblent de plus en plus à de l'or. Pas forcément pour frauder, parce que des bijoux de pacotille, c'est toujours bon à prendre. Mais ils atteignent une telle perfection dans la similitude, c'est qu'ils fabriquent des alliages qui ont tellement la couleur, la spécificité de l'or, qu'ils peuvent finir par penser qu'ils fabriquent effectivement de l'or. Et que donc, il est possible de trouver un moyen de transformer tous les métaux dits imparfaits, c'est-à-dire pour imparfaits pour nous, ça veut dire oxydables, en or. Alors, avec un travail de laboratoire important, je vous montre juste ce que l'on trouve. Alors c'est en grec, évidemment. Alors ça, c'est... ce sont des... Bon, les manuscrits sont du XIIe siècle, mais ce sont des copies de textes du 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. Et on voit très bien, hein, si vous êtes chimiste, vous le voyez d'autant mieux, qu'on est en présence de représentations assez précises, hein, d'alambic. Hein. D'ailleurs, on va trouver le mot... où est-ce qu'on... Je ne sais pas si sur celui-là, on trouve le mot ambix, al... Parce que alambic, c'est al... l'article arabe et le mot grec ambix. Donc on a ici la représentation d'un certain nombre d'appareils qui servent à faire des distillations, hein, selon divers procédés. Voilà ce que l'on trouve. Donc pour bien montrer que dès cette époque, ce que l'on appelle les traités alchimiques gréco-alexandrins sont bien en réalité des traités de chimie, hein, puisqu'il est bien question d'effectuer des opérations chimiques pour, entre guillemets, purifier la matière. Alors on voit bien en même temps que ces auteurs espère que la purification de la matière pourra s'appliquer à l'homme, que peut-être cette purification de la matière peut être pensée dans un schéma de transformation de l'univers tout entier, de purification du monde. Ça, c'est là un arrière-plan théorique, mais il demeure qu'on est en présence, d'abord et fondamentalement, de textes chimiques. Connaît un peu mieux l'alchimie arabe qui a été étudiée notamment par un auteur qui s'appelait Paul Cross et qui a traduit des textes arabes. Donc on connaît en particulier un personnage qui s'appelait Jabir ibn Ayan, vous trouverez son nom dans la bibliographie, qui vers le 9e siècle de notre ère développe une théorie chimique dite de la balance. Alors ça ne veut pas dire qu'il utilise la balance. Bien sûr qu'il utilise la balance. On dit que c'est Lavoisier qui a inventé la balance. C'est des stupidités. Pour faire les opérations que j'indiquais tout à l'heure, il faut bien des balances pour peser les ingrédients. Et on voit bien que suivant la quantité qu'on met, on n'aura pas les mêmes résultats. Ça, c'est depuis que des gens font de la chimie, on sait cela. La balance, non, c'est l'idée d'un équilibre entre ce qu'il appelle l'intérieur et l'extérieur des corps. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des substances, des propriétés qui sont cachées par l'extérieur. Et donc, si on peut ouvrir les substances par la distillation ou la combustion, c'est-à-dire faire sortir, on va pouvoir faire apparaître dehors des propriétés qui étaient cachées dedans. Et donc, peut-être que la pureté métallique est cachée à l'intérieur d'une impureté. Donc, si on inverse le rapport intérieur-extérieur, on va faire apparaître la pureté dehors et donc on transformera du cuivre en or. C'est ça l'hypothèse centrale de Jabir ibn Ayan, qui suppose que pour arriver à cette fin, on doit fabriquer une substance qu'il appelle al-iksir, l'élixir, qui est la pierre philosophale, dira-t-on au Moyen-Âge en latin, hein, la lapis philosophorum, la pierre des philosophes, dit-on quelquefois. Et donc cette substance, c'est l'agent chimique qui permet d'effectuer ce retournement. Et il suppose que le corps humain est fait des mêmes ingrédients que les substances minérales et que par conséquent, ce qui permet de, entre guillemets, guérir les métaux, c'est-à-dire de les débarrasser de leurs impuretés et de leur oxydabilité, pour le dire dans un terme d'aujourd'hui, doit pouvoir aussi guérir les êtres vivants, c'est-à-dire les débarrasser des impuretés qui les rendent malades. D'où l'idée qui apparaît dans cette alchimie arabe d'une application de la chimie à la médecine. Le Moyen-Âge latin, latin, c'est-à-dire dont les textes sont écrits en latin, à partir du XIIe siècle, reçoit toute la production scientifique et philosophique du monde arabe et la traduit en latin. C'est valable dans le domaine de l'astronomie, des mathématiques, de la philosophie, de l'optique, de la physique et donc de l'alchimie. Et un vaste corpus de textes se développe alors, le XIIIe et le XIVe siècle, voit la publication de dizaines et de dizaines, on pourrait dire de centaines, de traités alchimiques largement diffusés, autant que le permettent la technique du manuscrit, évidemment. Et donc un vaste corpus se développe qui contient habituellement une partie théorique, une réflexion sur la structure de la matière, et une partie pratique. Ce sont en fait des recueils de recettes chimiques à des fins de teinturerie, de petite métallurgie et surtout de pharmacologie. La théorie de la matière qui se développe alors s'oppose à la théorie de la matière que l'on trouve dans les œuvres d'Aristote, à une époque où la physique d'Aristote constitue le pilier de l'enseignement universitaire, et ce sera là l'une des raisons, avec le problème du laboratoire que j'évoquais tout à l'heure, pour lesquelles, auprès des intellectuels de l'époque, l'alchimie, qui est la chimie de l'époque, a souvent mauvaise presse, parce qu'elle se réfère à une représentation de la matière, de ses éléments et de ses principes, qui n'est pas celle qu'enseigne Aristote. Et donc, ça crée une mise à distance, une suspicion, qui va être permanente. Au XVIe siècle, il y a un regain pour l'intérêt de la chimie grâce à la diffusion de l'œuvre de Paracelse, un personnage étrange, un peu fou, médecin errant, qui, jusqu'à sa mort, il est mort à 45-50 ans, je ne sais plus, en tout cas en 1541, rédige de nombreux textes dans un mélange d'allemand dialectal et de latin qui furent édités, traduits. On les trouve aujourd'hui en reprint, mais c'est très énigmatique. Heureusement pour l'histoire de l'alchimie, ses disciples ont rédigé des digestes, des lexiques, et cette pensée de Paracelse simplifiée, éclairée, clarifiée par ses disciples, est la base d'un regain d'intérêt qui va produire ses effets surtout dans l'histoire de la pharmacologie. Et on arrive donc à une philosophie chimique, c'est-à-dire une théorie chimique qui se développe pendant tout le XVIIe siècle et dont je vais essayer maintenant de donner donc un aperçu théorique plus précis en m'appuyant sur un texte qui a été rédigé en 1653, pour mettre bien les choses en perspective, c'est 10 ans après la mort de Galilée et donc la naissance de Newton, c'est 2 ans après la mort de Descartes, donc on est dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en plein dans le boom de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution scientifique. Donc Pierre-Jean Fabre, qui est médecin alchimiste à Castelnaudary, qui a publié une œuvre importante, très largement diffusée en France, en Europe, en Allemagne, il écrit en latin, c'est traduit en allemand, etc. Vers la fin de sa vie, donc en 1653, rédige un petit texte qui est destiné à la bibliothèque d'un prince allemand, et dans lequel il résume la doctrine alchimique. Donc je résume le résumé. D'abord, dit-il, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la pierre des philosophes, la pierre philosophale, des philosophes, parce que les alchimistes s'appellent eux-mêmes philosophes, au sens que le mot prend souvent à l'époque, c'est-à-dire le philosophe, c'est celui qui fait de la philosophie de la nature, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, des sciences de la nature. C'est dans ce sens-là que le mot philosophe est utilisé au XVIIe siècle la plupart du temps, et non pas dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Et si même Aristote est un philosophe, c'est parce qu'il y a toute une série de traités de philosophie naturelle dans l'œuvre d'Aristote. Donc d'abord, il faut bien comprendre que la pierre des philosophes n'est pas un produit de l'imagination des alchimistes, elle se trouve réellement dans la nature. C'est une substance naturelle qui est la cause de la production des métaux dans les veines des mines. Donc Fabre partage une conviction très largement répandue au XVIIe siècle, selon laquelle les métaux croissent dans les mines. Un peu sur le modèle des cristaux. Je préfère dire cela plutôt que sur le modèle du vivant. Un peu sur le modèle des métaux, il y a une possibilité d'accroissement au point que certains disent qu'il faut laisser les mines en jachère pour pouvoir y revenir quelques dizaines d'années plus tard et recommencer la collecte du métal. Et donc, les métaux croissent dans les veines des mines grâce à la cuisson que leur procure la chaleur naturelle de la terre. La nature ne voulait produire qu'un seul métal, l'or, qui est le métal par excellence, mais des impuretés dans le processus naturel entraînent la production des différents métaux imparfaits. Dans ces conditions, le travail de l'alchimiste ne consiste pas à fabriquer un produit artificiel. L'or de l'alchimiste n'est pas un or d'artifice. Il s'agit d'extraire de la matière métallique sa propre semence, qui est diffuse dans la masse du métal, de telle sorte que l'on puisse, en laboratoire, c'est-à-dire dans des conditions idéales de cuisson et de pureté, mener à terme l'opération que, la plupart du temps, la nature ne sait pas elle-même mener à son terme. Alors, quelle est cette semence métallique, comparable d'une certaine manière à celle des animaux, avec cette différence que dans les êtres vivants, la semence réside dans un organe particulier, alors que pour les minéraux et les métaux, elle est diffuse dans la masse totale du minéral. C'est, dit Fabre, un produit du ciel entendez des étoiles. C'est une matière extrêmement subtile, ce que les anciens appelaient une quintessence, c'est-à-dire la matière dont est fait le ciel dans lequel circulent les astres. Mais c'est en même temps la partie la plus subtile, on dit spirituelle à l'époque. Son alcool, le mot vient juste d'être fabriqué par Paracelse, pas vraiment ou pas seulement pour désigner ce que nous appelons alcool, mais pour désigner tout produit d'une distillation censé extraire d'un corps, quel qu'il soit, sa partie la plus légère, la plus subtile. Alors, tout cela pour eux est très compliqué, parce que les mots qu'ils emploient, c'est des mots à racine du mot grec pneuma, qui veut dire l'air, des mots à racine latine spiritus, qui veut dire aussi l'air, mais qu'on traduit aussi esprit. Au XVIIe siècle, le mot esprit a un double sens. Il désigne la pensée, mais aussi les parties les plus légères de la matière. Bon, pourquoi toutes ces difficultés? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le mot et le concept de gaz n'existent pas. Donc un homme du XVIIe siècle ne peut pas penser l'état gazeux de la matière. La phrase ne peut pas être prononcée et le concept ne peut pas être produit. Alors on a du mal, nous, à penser la chimie sans le concept de gaz. Alors on dira au XVIIIe siècle les airs. Et ça n'est que vraiment... Alors, en fait, le mot existe au XVIIe siècle, mais il n'est pas utilisé du tout. Et ça n'est qu'à partir de Lavoisier que le concept de gaz va trouver sa place dans le discours des chimistes, parce qu'il correspond à un certain état de la matière qu'on sait parfaitement identifier et qu'on sait analyser, comme vous le savez. Alors, comment faire de cette analyse un peu théorique une réalité de laboratoire? Comment se présente à nous cette semence universelle, impalpable, insaisissable, invisible? Eh bien, dit Fabre, elle se présente sous la forme d'un sel, dont le modèle est sans doute le salpêtre, ce sel de pierre qui se fixe sur les murs, le nitre, qui se fixe sous forme de poudre sur les pierres, et qui est le résultat d'un esprit qui a circulé dans les airs, Donc cette espèce de semence impalpable des minéraux, dans certaines conditions naturelles, se fixe et devient tel ou tel corps salin que l'on peut récolter, analyser. Le sel possède d'ailleurs, remarque Fabre, des propriétés complexes, puisqu'il est diaphane comme l'air, il est corporel comme la terre, il est brûlant comme du feu, tout en retenant l'humidité de l'eau. Donc on y retrouve, d'une certaine manière, les quatre éléments de la vieille physique d'Aristote. Mais si ce n'était qu'un produit chimique, ça ne suffirait pas. Et donc on va supposer que ce sel est un sel principe qui confère la corporéité à toute chose, et sel principe qui s'associe à deux autres principes, qui sont le soufre et le mercure, qu'on écrit avec une majuscule pour les distinguer du vif argent et du soufre qu'on vend dans le commerce. Il s'agit donc de principes qui donnent au corps les propriétés dont ils sont porteurs. Le mercure, c'est le principe de fluidité des corps, qui donne à tout métal sa malléabilité et sa fusibilité. Tandis que le soufre, c'est le principe igné, c'est le principe de feu présent dans toute chose. Donc tous les métaux en particulier, et même les minéraux en général, sont le résultat d'un mélange, selon des proportions variables, de mercure, de soufre et de sel, alors avec des tas d'impuretés pour les minéraux en tout genre, qui expliquent leur variation. Alors quand on dit que c'est un mélange, il ne faut pas le concevoir sur le modèle physique, chimique contemporain, ni même comme simplement un agrégat, puisque non seulement ils sont des constituants, mais ce sont des constituants qui apportent leurs propriétés, propriétés qui sont conservées par le mixte dans lequel se trouvent ces principes. À partir de là, on peut décrire les opérations chimiques, qui se ramènent toutes, dit Fabre, à cuire, c'est-à-dire que toutes les opérations se font par le feu, ce sont des calcinations, ce sont des distillations qui permettent de manière répétée, on s'imagine que la coobation, c'est-à-dire la distillation où le distillat est à nouveau distillé, ce qui pour un chimiste d'aujourd'hui n'apporte rien, on recueille le distillat, puis on le remet à l'état d'agazeux, puis il redevient liquide, etc. Ça ne change pas sa composition chimique. Mais pour les chimistes de l'époque, la coobation, donc la distillation en cercle, est supposée renforcer la purification. Et donc le chimiste espère qu'au terme de ces opérations, il réussira à obtenir, sous une forme plus ou moins saline, un corps qui possède en lui cette substance qui pourrait ensuite être utilisé pour transformer les métaux. Mais l'important n'est pas là. De toute façon, ça ne marche pas. Et ils le savent bien. Ils s'en rendent bien compte. L'important n'est pas là. L'important, c'est la connaissance des substances naturelles que l'on obtient et l'utilisation possible pour toutes sortes d'opérations chimiques qui se ramènent d'une manière ou d'une autre à cette théorie. Alors, cette pensée est-elle restée cachée ? En réalité, il y a là un mythe qui était déjà présent au XVIIe siècle. On trouve aujourd'hui, par exemple, on voit dans les musées des tableaux, par exemple, du peintre flamand Teniers, qui présente un alchimiste comme un personnage. Mais les images, on les trouve partout. Vous tapez alchimie dans Google, et puis c'est ça que vous allez trouver en premier. Donc des représentations de tableaux de Teniers qui présentent un personnage isolé dans un laboratoire sombre et enfumé, etc. Donc il y a cette idée-là, qui est une idée un peu malveillante. Mais en réalité, les alchimistes sont très loin de cette image populaire et un peu méprisante, correspondant peut-être à l'image que certains de nos contemporains peuvent se faire de ce qu'est un savant d'aujourd'hui dans son laboratoire. Il y a des mythes du savant qui perdurent à travers les siècles. En réalité, un alchimiste au XVIIe siècle, c'est quelqu'un qui produit, qui publie. Pierre-Jean Fabre publie 12 ouvrages d'alchimie pendant sa vie, qui sont dédicacés à Louis XIII, à Gaston d'Orléans, frère du roi, au pape, et à la République de Venise. Donc, on est très loin d'un souci d'occultation. On est dans une activité de diffusion. Les recueils de textes se multiplient. Donc pendant tout le XVIIe siècle, grâce évidemment au développement de l'imprimerie, qui ont déjà plus d'un siècle et demi, on voit se développer les recueils de textes. Un seul, en 1702, la Bibliotheca Chemica Curiosa, Bibliothèque Chimique Curieuse, paraît à Bâle, publié par un médecin qui s'appelle Jean-Jacques Manger, en 2 volumes, on trouve là 140 traités d'alchimie en latin. Et à la même époque à peu près, le Theatrum Chimicum, théâtre chimique, recueille 200, en 6 volumes, 200 traités d'alchimie différents, en latin. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître une bibliothèque des philosophes chimiques qui, là encore, recueille près d'une centaine de textes traduits en français. On a un Deutsche Theatrum Chimicum, un British Theatrum Museum Chimicum, etc. Bref, au XVIIe siècle, les textes alchimiques se développent très largement. Ce qui permet d'expliquer la place importante que la chimie a pu jouer au XVIIe siècle, et c'est le point auquel je reviens. Donc, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas au Moyen-Âge, mais c'est bien au XVIIe siècle que l'alchimie a connu ses plus grands développements, tant par sa diffusion que par son influence sur la médecine. Et si ça passe souvent inaperçu, c'est parce qu'on a oublié quelque chose de tout simple. C'est que pour un homme du XVIIe siècle, les deux mots chimie et alchimie sont de parfaits synonymes. Tout le monde sait bien au XVIIe siècle que alchimie, c'est le mot chimie avec l'article arabe al devant. C'est quelque chose qui est bien connu. Et d'ailleurs, quand les traducteurs latins du XIIIe siècle ont dû traduire de l'arabe en latin, ils ont eu un problème. Ils se sont trouvés dans le mot alchimia. Ils ont bien deviné qu'il y avait une racine grecque par derrière. On ne sait pas très bien d'ailleurs d'où vient le mot en grec. Dans le grec ancien, ça n'existe pas. Le mot chémia apparaît dans le grec que j'évoquais tout à l'heure, au IVe siècle après Jésus-Christ, donc un grec très tardif. Mais dans le grec ancien, dans le grec classique, il n'y a pas de mot pour dire la chimie, parce que la science chimique n'existe pas, purement et simplement. Et donc, alchimia, alors certains ont traduit alchimia en latin, d'autres ont traduit chimia, et quand on traduit le latin en français, certains traduisent alchimie, d'autres traduisent alchimie avec un E à la place du I, d'autres traduisent chimie. Alors il y aurait une façon facile de résoudre le problème, ça serait de prendre la graphie du XVIIe siècle, chimie avec un Y. L'inconvénient, c'est qu'à l'oreille, ça ne marche pas. Alors en anglais, ça marche, hein, parce qu'au lieu de dire chemistry avec un E, on dit chemistry avec un Y à la place du E. Et à l'oreille, moi je ne sais pas le faire parce que je n'arrive pas à parler anglais correctement, mais pour une oreille anglaise, on entend bien la différence entre chemistry et chemistry. Bon. Ce sont des artifices, hein, pour essayer de mettre en évidence ce point oublié, c'est que les deux termes sont absolument synonymes. Quand Descartes, qui n'aimait pas les alchimistes, les critique dans le discours de la méthode, ces alchimistes dont il faut se méfier, dont les théories sont trompeuses, elles sont trompeuses parce qu'elles ne correspondent pas à ce que lui Descartes pense. Hein. Bon. Il parle des mêmes personnages que ceux dont il parle 15 ans plus tard dans Les Principes de la philosophie, lorsqu'il dit que les produits dont il est en train de parler, en les expliquant par les lois de la mécanique, sont les principes des, et là il emploie le mot, chimistes, c'est-à-dire le mercure, le soufre et le sel. Et donc pour Descartes, les alchimistes et les chimistes, ce sont exactement les mêmes personnages, et c'est la même théorie. Alors, de cette présence de l'alchimie ou de la chimie dans la pensée du XVIIe siècle, on peut trouver de nombreux exemples. Des philosophes comme Francis Bacon au début du XVIIe siècle, Leibniz, John Locke, des savants comme Robert Boyle, Newton, je vais y revenir, se sont intéressés à l'alchimie, qu'il critique parfois, mais qu'il ne rejette jamais en dehors du champ des sciences. Même Descartes, Descartes n'aime pas les alchimistes parce que leur travail est empirique. Et pour Descartes, la pensée de la nature ne peut être que déductive. Donc les alchimistes prétendent dire les principes de la matière alors qu'ils ne font que présenter des corps particuliers. Donc Descartes critique l'alchimie parce que c'est une science mal fondée. Mais il dit, dans un texte peu connu parce que c'est la réponse à des objections d'un disciple dissident dans un latin souvent pas traduit, donc ça ne se trouve pas dans le... Ça ne se trouve que dans les œuvres complètes de Descartes, mais dans ce qu'on trouve de Descartes, habituellement, on ne trouve pas ce texte, qui s'appelle « Note in programma », remarque sur... Alors, programma, c'est un placard, une affiche. Il déclare que, entre eux, ce que l'on sait parce que c'est révélé, c'est le problème des théologiens, la religion, les mystères de la religion. Ce n'est pas pour moi, dit Descartes, ça c'est le travail des théologiens, d'une part, et qui ne fait pas l'objet de démonstration. Et d'autre part, ce qui est le travail des philosophes et des savants, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de démonstrations, il y a un autre type d'énoncés qui ne sont pas démontrés sans pour autant appartenir au domaine du mystère et de la religion. C'est ce qu'on ne sait pas encore démontrer aujourd'hui, mais qu'on saura sans doute démontrer demain. Et il donne deux exemples, la transmutation des métaux et la quadrature du cercle. Alors, c'est intéressant, parce que par rapport à ce qui est vraiment un problème au XVIIe siècle, la quadrature du cercle, comment construire un cercle dont l'aire soit égale à celle d'un carré donné. Je ne dis pas de bêtises, on peut le dire comme ça. Donc c'est un problème dont on découvrira au XIXe siècle qu'il n'a pas de solution, à cause du caractère du nombre pi. Mais au XVIIe siècle, on ne le sait pas. C'est un problème. Eh bien, la transmutation des métaux, c'est un problème du même genre. C'est-à-dire, on ne sait pas le faire. Mais qu'on ne sache pas le faire ne signifie pas pourtant que ce soit quelque chose d'irrationnel, c'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Peut-être qu'on ne la trouvera jamais. Voilà ce que pense Descartes au XVIIe siècle. Alors, un exemple d'un autre philosophe, Spinoza. Donc Spinoza. Alors, je prends l'exemple de Spinoza parce que s'il y a au XVIIe siècle un philosophe qu'on ne peut pas soupçonner de sombrer dans l'irrationnel, c'est bien Spinoza, qui dit que Dieu c'est la nature et qui sera d'ailleurs accusé d'athéisme pour cette raison. Donc c'est un rationaliste, c'est le philosophe le plus rationaliste du XVIIe siècle. Alors Spinoza, c'est une lettre. C'est une lettre qui date du 25 mars 1667 qu'il écrit à l'un de ses amis. Et il lui dit ceci, donc vous avez le texte, « J'ai parlé à M. Vossius de cette affaire d'Helvétius. » Je lis le texte d'abord, et puis on verra après à le commenter rapidement. « Il a beaucoup ri, je me dispense de relater tout notre entretien, et a même été surpris des questions que je lui posais au sujet de pareil bivezet. Pour moi, sans me soucier en rien de cet étonnement, j'ai été trouver l'orfèvre même qui avait éprouvé l'or, et de nom est Brechtel. Ce dernier tint un tout autre langage que M. Vossius et affirma que le poids de l'or s'était accru entre le moment de la fonte et celui de la séparation, qu'il avait augmenté en proportion du poids de l'argent introduit dans le creuset pour effectuer la séparation. D'où il concluait que l'or, celui qui provenait de la transmutation de l'argent, avait quelques propriétés particulières. Il n'était pas le seul. Diverses autres personnes alors présentes ont fait la même expérience. Après cela, je me suis rendu auprès d'Helvétius, qui me montra et l'or et le creuset intérieurement revêtu d'or, et me raconta qu'il avait mêlé dans le creuset, au plomb fondu, à peine un quart de son poids d'orge ou de graines de moutarde. Il ajouta qu'il publierait bientôt un récit de toute l'affaire, et rapporta en outre qu'une certaine personne, celle-là même prétendait-il qui était venue le voir, avait fait à Amsterdam la même expérience. Vous en avez certainement entendu parler. Voilà ce que j'ai pu apprendre concernant cette affaire. Donc Spinoza mène l'enquête, c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé à propos d'un événement qui fait grand bruit à l'époque à Amsterdam. Spinoza est hollandais, il vit en Hollande. Alors, paraîtra en effet l'ouvrage évoqué à la fin du texte, quelques mois plus tard, en latin, sous le titre « Vitulus aureus, le veau d'or », bref texte dans lequel l'auteur se nommait Helvétius, hein, raconte ce que l'on devine ici. Et ce qui se dit alors, Helvétius, donc c'est un médecin d'origine allemande qui est venu s'établir en Hollande, et puis qui il raconte ceci, c'est qu'un personnage mystérieux est venu lui rendre visite, lui a offert un sachet avec une poudre en lui disant « c'est la poudre, c'est la pierre des philosophes ». Donc Helvétius, avec cela, sans y croire, dit-il, ça marche même quand on n'y croit pas, on pourrait reprendre la boutade, sans y croire, a effectué une transmutation métallique. C'est-à-dire qu'ayant mis cette poudre dans un creuset avec du plomb, il a transformé il a transformé le plomb en or. Et qui plus est, on s'aperçoit que cet or a des propriétés particulières, puisque si on mêle de l'argent à cet or, l'argent devient lui-même de l'or. Et des personnes dignes de foi, puisque ce sont des professionnels, des orfèvres, des spécialistes. On est à Amsterdam, il y a un commerce des diamants, des bijoux, des métaux précieux, donc les professionnels ne manquent pas. Donc ce sont des professionnels qui attestent que, effectivement, le produit qu'on leur a apporté, c'était vraiment de l'or, et que cet or avait des propriétés que l'or n'a pas d'habitude. Spinoza dit, voilà ce que j'ai vu. Et se démarque par rapport à ce monsieur Vossius inconnu qui considérait que c'était des bilvesées. Alors, le texte est intéressant parce qu'il montre, c'est pour ça que je produis celui-là plutôt qu'un autre, il montre l'ambiguïté de la situation. Spinoza ne pense pas que la transmutation des métaux est possible. Il dira même quelques années plus tard à l'un de ses amis qui se livrait à la transmutation des métaux, qui cherchait à transmuter les métaux, comme beaucoup de gens le faisaient à l'époque, « Arrêtez, vous perdez votre temps, à mon avis, ça ne marche pas. » Bon, voilà ce qu'il lui écrit. Donc Spinoza pense, en fin de compte, que ça ne marche pas. N'empêche, c'est un objet d'étude, c'est un objet d'examen, ce n'est pas quelque chose qu'on rejette du revers de la main. Donc dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il faut enquêter sérieusement, voir ce qui se passe, et les conclusions auxquelles on aboutit laissent perplexe, puisque des gens dignes de foi, des professionnels, disent qu'il y a eu transmutation. Alors bien sûr, nous on dit ils se sont trompés ou ils ont été trompés, il y avait une supercherie, bon, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche, hein, ce qui compte, bien sûr on sait que ça n'a pas marché. Mais il y a la conviction que ça a marché. On n'est pas dans des cercles d'illuminés, hein, on n'est pas dans des petits groupes cachés, c'est au grand jour et ce sont les savants et les philosophes les plus soucieux de rationalité qui témoignent de cette perplexité. Alors, l'alchimie a également joué au XVIIe siècle un rôle très important dans l'histoire de la médecine. Alors, je passe très vite parce que l'heure tourne. Disons simplement que, à la suite des travaux de Paracelse, se développe l'idée que, plutôt que de soigner les maladies avec des médicaments d'origine végétale, on pourrait les soigner avec des médicaments d'origine minérale. Jusqu'à cette époque, on a la conviction qu'on ne peut employer des substances d'origine minérale que pour soigner, pour des soins externes, comme cicatrisants, par exemple. Hein, bon, et désinfectants, d'ailleurs. Ça marche bien. Bon, ça marche vraiment bien. Mais faire ingérer une substance d'origine minérale à un malade, c'est l'empoisonner. Et eux vont dire, mais pas du tout. Le corps humain est fait des mêmes principes, mercure, soufre et sel, que tous les corps de la nature, et par conséquent, les substances qui sont actives et bénéfiques aux métaux doivent pouvoir être également bénéfiques au corps humain. Et donc, on commence à fabriquer des médicaments d'origine avec des produits, des substances minérales, en particulier l'antimoine. La stibine, le sulfure d'antimoine, est considéré comme un purificateur de l'or. Il y a une opération sur laquelle je passe, de chimie, qui permet effectivement, quand on a un alliage d'or, si on le fait chauffer avec du sulfure d'antimoine, les réactions chimiques font que l'or va se trouver être dégagé des autres métaux auxquels il était mêlé. Et donc, puisque l'antimoine purifie, entre guillemets, c'est comme ça que c'est interprété, l'or, pourquoi ne purifierait-il pas le corps? Et donc, on fabrique des médicaments dits émétiques, c'est-à-dire qu'ils font vomir, hein, parce que ce sont des poisons. Bon, le sulfure d'antimoine, je crois que c'est très proche, c'est à peu près de la morora, hein, c'est un produit très toxique. Hein. Mais à très faible dose, et on s'aperçoit d'ailleurs quelquefois que la dose est tellement faible qu'en réalité il n'y en a plus. Mais bon, c'est encore une autre affaire. À très faible dose, c'est un médicament. D'où des querelles qui vont durer un siècle, on appelle ça quelquefois la querelle de l'antimoine, entre les médecins officiels, la faculté de médecine de Paris, qui disent « vous êtes des empoisonneurs », et les médecins paracelsiens qui essayent d'imposer à la fois une nouvelle pharmacologie et un nouveau regard sur le fonctionnement du corps humain. Après tout, le corps humain fonctionne comme un alambic. Dans le corps humain se font des digestions, qui sont des combustions, se font des distillations, et donc on a une vision chimique du corps humain qui peu à peu va se développer. Alors, je ne dirais pas qu'elle va s'imposer, parce que la résistance va être grande, mais ça contribue fortement à l'évolution de la médecine du XVIIe siècle. Donc les modernes, de notre point de vue, du XVIIe siècle en chimie, ce sont les alchimistes. Enfin, un dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est Newton. Hein, puisque c'est un peu... Donc Anne faisait tout à l'heure allusion au dernier numéro de la recherche. Hein, voilà, Newton, les alchimistes et la science. Bon, pub gratuite. Alors, Newton était un alchimiste. Le fait est incontestable. Ça a été découvert qu'en 1936. C'est une histoire rocambolesque. Hein, alors Newton a consacré un temps considérable à faire des travaux de chimie, d'alchimie, hein, à King's College où il était professeur de mathématiques. Il avait une petite baraque dans laquelle il faisait tous les jours ses expériences. Il y a eu des explosions à plusieurs reprises. Il a failli incendier le collège, en fait, etc. Et les gens le savaient. Et puis ça a été oublié après la mort de Newton. Ça n'est qu'en 1936 que les descendants de Newton, décidant de vendre des manuscrits de leur illustre aïeul aux enchères, la fabrication du catalogue chez Sotheby a mis en évidence qu'il s'agissait de traités alchimiques. Alors comme ça a été vendu aux enchères, on n'a pas pu voir le contenu, ça a été dispersé. Heureusement, 80% ont été rachetés par Keynes, l'économiste anglais Keynes, au nom de la sauvegarde du patrimoine national, qui en a fait don à King's College. Et donc, on a pratiquement récupéré tous ces manuscrits aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns dont on a perdu. On a une description sommaire, mais le texte même, on ne l'a pas. Alors, le problème devient comment interpréter cela. Dans un premier temps, Keynes lui-même, puis des historiens des sciences des années 50, comme les Hall et Maria Boss, ont dit, ouais, mais tout le monde sait que Newton était complètement cinglé, ce qui est un peu vrai. Bon. Donc, qu'il se soit livré à ce genre d'interprétation, à ce genre de travaux, n'a rien d'étonnant. D'autres ont dit, Newton s'intéressait beaucoup à la théologie. C'était vrai, il a écrit énormément sur la religion à côté de ses traités de mathématiques. Et donc, il y avait un lien entre l'alchimie, la religion, etc. Mais ces explications-là ne tiennent pas la route. On sait aujourd'hui, et vous verrez un article dans la revue La Recherche, c'est un résumé de William Newman, qui est professeur d'histoire des sciences à l'Université de Indiana aux États-Unis, qui est un grand spécialiste de la question. Et donc Newman explique qu'en réalité, il y a un lien étroit entre les recherches alchimiques de Newton et ses travaux de physicien. Contrairement à ce que Newton dit, il forge des hypothèses. C'est-à-dire qu'il veut comprendre quelle est la substance cachée qui, dans la nature, provoque l'attraction universelle. Et donc, il veut travailler en particulier sur cette attraction qui se fait à toute petite distance. Alors, il évoque les attractions électriques, magnétiques, mais aussi les attractions à plus petite distance encore qui font que s'effectuent les opérations de la chimie, les précipitations. Quand on met un métal dans une solution acide, il y a précipitation d'un autre métal, etc. Donc les corps chimiques s'attirent et se repoussent en raison de forces qui sont peut-être matérialisées par une substance. Et Newton était persuadé qu'il trouverait le secret de ces substances provoquant les attractions dans les manuscrits alchimiques. Alors, les trois quarts de ces manuscrits, en réalité, ce sont des copies. Newton a recopié des textes. Et une petite part, ce sont ses propres écrits, qui sont des écrits, d'ailleurs, qui manifestent davantage sa perplexité. En réalité, Newton n'a pas trouvé, mais il a cherché toute sa vie. Donc, pour un homme comme Newton, l'alchimie, c'est un réservoir de savoir dans lequel il faut puiser. Et puis, un dernier exemple, c'est une querelle qui oppose deux chimistes en France au début du XVIIIe siècle. Donc on est à l'Académie royale des sciences. Pour la première fois dans l'histoire du monde occidental, des gens sont rémunérés pour être savants, hein, puisque les académiciens sont payés sur finances publiques pour exercer leur fonction. Donc on a deux chimistes professionnels. L'un qui s'appelle Louis Lemery, le fils de Nicolas Lemery, qui avait écrit un traité d'un cours de chimie, et l'autre s'appelle Geoffroy, Étienne-François Geoffroy, qui se rendra relativement célèbre parce qu'il est l'inventeur des tables des affinités chimiques, qui vont servir de modèle pour penser les opérations de la chimie jusqu'au début du XIXe siècle. Lavoisier lui-même ne remettra pas en question les tables des affinités chimiques. Donc Geoffroy est un grand chimiste du début du XVIIIe siècle. Alors la querelle entre les deux personnages porte sur une question qui nous déconcerte aujourd'hui, c'est la fabrication artificielle du fer. Alors, pour nous, il n'y a pas de fabrication artificielle du fer, parce que c'est un corps simple. Mais pour eux, comme le fer est un mix, on doit pouvoir le fabriquer artificiellement. Et donc, Geoffroy dit, quand on prend un morceau de bois et qu'on le calcine, on trouve toujours du fer, quelles que soient les précautions qu'on prenne. Même si on a pris les précautions de ne pas le couper en morceaux avec une scie, pour éviter qu'il y ait des particules de fer, etc. Donc, quelles que soient les précautions prises, quand on calcine un végétal, et puis il élargit le propos, quand on calcine un végétal, on trouve toujours du fer. Donc, la calcination produit ce que nous appellerions une réaction chimique, à la faveur de laquelle du fer est fabriqué. C'est-à-dire le mélange entre les matières du végétal, qui sont multiples, le charbon, l'air. Toutes ces substances chimiques mélangées produisent, entre autres choses, du fer. Et Lemery se moque de lui en disant, mais pas du tout. Le fer vient de la terre dans laquelle le métal était planté et les particules de fer ont remonté. Et donc, quand vous le calcinez et que vous faites une analyse, vous trouvez dans les cendres, en passant la lame aimantée, des particules de fer. Et Geoffroy répond en ricanant à Lemery, mais pas du tout. Comment voulez-vous que les particules de fer qui sont lourdes montent avec la sève de la plante? C'est absolument... Voilà les termes du débat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, exaspéré, Lemery dit... Alors, ce sont des communications devant l'Académie des sciences. Donc, on trouve ça sur Internet, sur Gallica. Vous trouvez ces textes-là, vous pouvez les lire comme... C'est aujourd'hui, évidemment, c'est accessible à tout le monde. Donc, vous regardez les mémoires de 1704, de 1708, vous cherchez les noms de Lemery et de Geoffroy, et vous trouvez les textes que je suis en train d'évoquer. Et l'argument ultime de Lemery, c'est de dire, en fin de compte, oui, mais là, Geoffroy s'inspire d'une recette qui a été donnée par un nommé Becher, qui était un alchimiste allemand de la fin du XVIIe siècle. Bref, Geoffroy est alchimiste. Et si Geoffroy s'en défend, c'est parce que le mot commence à être utilisé en termes péjoratifs. C'est-à-dire que dans la bouche de Lemery, un alchimiste, c'est un chimiste du XVIIe siècle qui n'accepte pas la doctrine de Descartes. Et alors c'est très étonnant pour nous, parce que qui se trompe dans l'affaire? Alors vous direz, c'est Geoffroy qui se trompe. Lemery a raison, les particules de fer viennent de la terre. Mais en même temps, Lemery se trompe complètement, puisque son explication est une explication mécanique à la Descartes, avec des pores, des pointes, etc., alors que Geoffroy, lui, propose des explications chimiques, alors, qui sont erronées dans leurs détails, mais qui correspondent à un travail authentique de chimiste. Et la suite de l'histoire, c'est que les travaux de Louis Lemery sont radicalement oubliés aujourd'hui, alors que les travaux de Geoffroy sur la table des affinités vont marquer tout le XVIIIe siècle. Donc l'homme d'avenir, l'homme de progrès, c'est celui dont les références sont dans des textes alchimiques. Et celui dont les théories tomberont dans l'oubli, c'est celui qui se croit moderne parce qu'il est cartésien, mais dont on s'apercevra bientôt que ces théories sont pure imagination. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je pourrais simplement conclure en disant, oui, l'alchimie était une science, dans la mesure où, simplement, une fois qu'on a débarrassé le mot alchimie des interprétations erronées qui lui ont été attribués depuis le 19e siècle et au 20e siècle, on s'aperçoit que ce que l'on appelle l'alchimie était au Moyen-Âge et encore au XVIIe siècle la chimie de l'époque, que c'est une science dont les contenus sont périmés, comme on dit, c'est-à-dire que l'évolution de la pensée scientifique a fait que les théories de l'époque ont été remplacées par d'autres, mais le fait que ce soit périmé ne signifie pas pour autant que ce soit irrationnel. La science se trompe constamment, et c'est en se trompant qu'elle avance et qu'elle produit de la vérité.
Merci beaucoup Bernard Lejoly de cette passionnante conférence, en plus avec une grande clarté sur des sujets qui paraissent difficiles au départ, et aussi c'est très important de montrer en effet que l'alchimie avait son droit de cité, si je puis dire, dans les siècles que tu as invoqués. Merci infiniment de ta conférence vraiment passionnante. Donc des questions dans la salle? Il y a des physiciens, mais il y a des chimistes aussi dans la salle? Yanis. Je voulais dire, Yanis, que tu avais aussi participé à Reforest. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai oublié ton nom. Tu es de Poitiers, alors je le dis.
Merci, Anna. J'aimerais vous poser une question sur un petit ouvrage d'Isabelle Stengers qui prétend diffuser un peu l'amour pour les sciences et l'histoire des sciences, qui est La guerre des sciences aurait-elle lieu, où elle met en scène Newton qui cacherait son alchimie, je ne sais pas si...
Bon, alors, ce livre-là d'Isabelle Stengers, je ne l'ai pas lu. Newton, alors, dire qu'il cachait son alchimie, oui, mais il faut d'abord se rappeler que Newton cachait d'abord ses travaux de mathématiques. Que si Newton a fini par publier les Principia Mathematica Naturae en 1687, c'est parce que son collègue, ami et concurrent Robert Hooke disait « J'ai fait une grande découverte, je viens de découvrir l'attraction universelle. » Et donc Newton a dit « Mais non, c'est pas moi, c'est moi, j'ai découvert. » Et donc il a dit « Enfant déjà, en voyant tomber les pommes, c'est Newton lui-même. » Donc Newton se faisait piéger parce que Newton ne voulait pas. Parce que c'est une personnalité, Newton, c'est un type qui était vraiment un peu bizarre. Newton ne voulait pas dire ce qu'il faisait, et y compris dans le domaine des mathématiques et de la physique. Alors évidemment, dans le domaine de l'alchimie non plus, mais c'est pas propre à l'alchimie. Donc dire c'est parce que c'était l'alchimie qu'il l'a occulté, je crois que non. Il l'a occulté parce qu'il était Newton, et non pas parce que c'était l'alchimie. Vous avez faim. Ah oui, apparemment.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui se prétendent alchimistes?
Oui, oui. Alors, à deux niveaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à des degrés divers dans ces mouvances ésotériques, et qui donc proposent ce que j'ai essayé d'épingler au début, proposent une lecture réductrice, c'est-à-dire antichimique, de l'alchimie. Alors ça s'est développé à partir du milieu du XVIIIe siècle. Donc je montrais comment la querelle Lemery-Geoffroy, on voit le mot alchimie pris dans un sens péjoratif. L'alchimie, alors c'est pas ésotérique, c'est la chimie passée, c'est la chimie qui s'est trompée. Bon. Et puis, vers le milieu du XVIIIe siècle, on va avoir des gens qui vont donc refuser l'évolution de la chimie et qui vont donc se cramponner, si je puis dire, à des textes passés, à des images, et qui vont donc privilégier, comme de toute façon ça ne marche pas dans le laboratoire, privilégier des lectures et des interprétations purement symboliques. Donc ça, c'est dès la fin du XVIIIe siècle, ça se développe beaucoup au XIXe siècle, et aujourd'hui encore, c'est à la mode. Entrer dans une librairie, je ne sais pas s'il y a Poitiers, il y a une librairie ésotérique, il y en a partout, entrer dans une librairie ésotérique, et puis vous allez voir. Il y a une littérature, entre guillemets, alchimique, abondante, dans laquelle vous trouverez exactement le contraire de ce que je vous ai expliqué ce matin. C'est-à-dire que l'alchimie, bien sûr, ce n'est pas de la chimie, c'est pour une élévation spirituelle, etc. Donc ça, ça existe. Et alors, même des gens qui pratiquent, c'est-à-dire qui ont des athanors et qui font des opérations. Alors, certains espèrent peut-être trouver la pierre philosophale, et d'autres pensent que, un peu dans la ligne de Jung, que en travaillant sur la matière, c'est leur propre esprit qu'ils transforment. Personnellement, à deux reprises, alors, j'ai jamais vu les appareils, mais j'ai rencontré au moins à deux reprises des gens qui m'affirmaient. Un jour, je faisais une conférence où j'avais évoqué, j'en ai pas parlé ici, une substance qui s'appelle l'alkaest, qui est supposée être un dissolvant universel. Donc les alchimistes du XIXe siècle parlent beaucoup de ce produit. Donc j'avais évoqué de ça dans une conférence, et à la fin, quelqu'un m'a dit, si vous voulez, j'en ai chez moi, je peux vous en montrer. Bon. Et une autre fois où je trouvais chez un brocanteur, il vendait des... Il y a eu, dans les années 60-70, toute une série de textes alchimiques qui ont été édités par une maison d'édition dans la collection Esoterica. Et il en vendait comme ça, pas cher. Donc moi, c'est, même si, qu'importe qui l'édite, hein, ce sont des textes qui sont intéressants à voir. Il me dit, oui, j'en ai beaucoup, j'en ai d'autres. De toute façon, moi, maintenant, ma pratique est telle qu'au niveau où j'en suis, je n'ai plus besoin de ces textes-là. Donc il pratique. Donc il y a des pratiquants.
Bernard, je voulais te demander s'il y a beaucoup d'historiens de la chimie et qui enseignent la chimie en excluant l'alchimie.
Oh bah c'est encore le. Je me souviens là aussi dans des colloques, je me suis fait à plusieurs reprises prendre quelqu'un pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, qui est décédé il y a quelques temps, Jean-Jacques.
Bien sûr.
Plusieurs d'entre vous. Donc qui était un historien de la chimie. Il m'a un jour insulté en me disant que c'était une honte de dire des choses pareilles et que, bien évidemment, l'alchimie n'avait rigoureusement rien à voir avec la chimie et qu'il fallait absolument distinguer. Bon, c'est encore une idée assez répandue. Et une maison d'édition qui produit beaucoup aujourd'hui demande à deux personnes différentes de faire l'une une histoire de la chimie avant Lavoisier et à l'autre une histoire de l'alchimie.
Il y a une dichotomie.
La réponse étant, voilà. Ouais, mais comment faire puisque c'est la même chose.
Voilà, exactement.
Attendez, pardon. Excusez-moi, monsieur, faut prendre. Ici, c'est obligatoire.
Oui.
Oui, je voulais simplement dire sans doute que les théories, bon, bien sûr, sont complètement fausses. Mais en tout cas, il restait l'expérience, et je pense que les chimistes qui ont, enfin les modernes, ont récupéré pas mal de verreries. Enfin bon.
Mais bien entendu, mais il y a en même temps des choses vraies.
Et sans doute, si ça n'avait pas existé, peut-être
que ça aurait retardé. Mais si vous voulez, mais entre la chimie d'aujourd'hui et l'alchimie du XVIIe siècle, il y a un rapport comparable à celui qu'il peut y avoir entre la physique du XXe siècle ou du début du XXIe siècle, et puis la physique de Newton ou celle de Galilée. C'est-à-dire que bien sûr, ou même de Descartes, bien sûr que Descartes énonce le premier la loi de l'inertie. Bon, mais dans un océan d'erreurs théoriques. Mais il a bien découvert, formulé, Galilée l'avait sans doute découvert, il a bien formulé très clairement la loi de l'inertie. Donc je crois qu'il y a c'est un peu comparable. Donc sur les acides, par exemple, c'est surtout une chimie des métaux qui est développée. Mais sur les acides, sur les relations entre les acides et les métaux, sur le jeu des précipitations, il y a des tas de choses qui sont entre guillemets vraies, incontestablement. Mais je pense que si on a comme souci simplement d'isoler le vrai, on rate quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire de comprendre que ce, entre guillemets, vrai, isolé, faisait partie d'un ensemble qui, pour l'essentiel, est faux, mais qui avait sa cohérence. Le faux n'est pas l'absurde. C'est juste la manière qu'une époque a de penser la réalité du monde.
Est-ce que vous avez étudié le moment où se fait la bascule qui fait qu'on voit maintenant l'alchimie comme quelque chose d'extrêmement... de farfelu, de complètement déraisonné. Est-ce que c'est le moment, est-ce qu'à un moment clé qu'on cite souvent, c'est quand Lavoisier conspue l'alchimie, ou est-ce que ça s'est fait déjà un peu avant ce moment-là?
Ça se fait, je crois que ça se fait pas d'un seul coup. Il y a plusieurs étapes. Bon, il y a d'abord quelque chose d'ancien que j'ai évoqué, c'est que les gens se méfient. Des alchimistes, comme aujourd'hui, des gens se méfient des savants. Donc ça, c'est constant. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, au début du XVIIIe siècle, le soupçon qu'une nouvelle chimie pourrait remplacer l'ancienne, et donc des gens qui utilisent le mot, qui profitent du fait qu'il y a deux termes, pour utiliser le mot alchimie pour désigner une chimie périmée, mais simplement périmée. Et alors, c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec le développement des... Alors c'est, historiquement, je crois que c'est très lié au développement de la franc-maçonnerie, du rosicrucisme, etc. Donc ce sont les gens qui sont dans ces mouvances qui vont proposer des interprétations symboliques de l'alchimie, déconnectées des pratiques chimiques. Ce qui n'est pas sans intérêt, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Simplement, ça ne correspond pas à ce qu'était vraiment... Donc c'est à ce moment-là. Et alors, c'est au XIXe siècle, c'est très précis. Donc les noms m'échappent là pour l'instant, mais il y a toute une série de personnages, c'est des Français pour les Anglais et des Anglais, qui ont créé les doctrines qu'on appelle occultisme, ésotérisme. Les mots ont été fabriqués au XIXe siècle. Le mot occultisme, en français ou en anglais, le mot ésotérisme, en français ou en anglais, on enlève le O et ça fait... Ce sont des mots qui ont été fabriqués au XIXe siècle pour désigner des doctrines qui récupèrent des tas d'éléments du passé, mais en les déconnectant complètement de leur contexte historique. Et donc en les trahissant fondamentalement. Donc c'est de cette époque-là, c'est de la fin du XIXe siècle, que date cette rupture et cette institution d'une alchimie dans le sens banal du terme aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait dire qu'aujourd'hui, le mot alchimie a deux sens. Il a le sens banal, qui désigne des doctrines ésotériques, et puis il a le sens historique, par lequel il désigne la chimie ancienne. Donc il faudrait qu'un jour les dictionnaires prennent acte de ce double sens que le mot a pris par le fait de l'histoire.
Merci beaucoup Bernard. Merci. Donc on se retrouve à 14h30, ça vous dérange pas? On a un petit peu de temps, pas toujours, tout à fait dans le timing. Vous avez une sélection de livres qui sont là, simplement sortis de mon bureau, mais il est bien entendu que la production éditoriale Une histoire des sciences est très vaste, et vous avez une sélection de sites, si vous arrivez à lire, parce que c'est pas facile à lire, dans le livret. Bon, et puis Bernard Joly a cité Gallica, et vous avez aussi les signets de la BNF, donc vraiment... une production éditoriale énorme en histoire des sciences. Merci à tous, à tout à l'heure en tout cas. Bon appétit.